L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe.
Giscard Bory, Vincent Coriol, bonjour.
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 Vous êtes tous les deux médiévistes à l'université, à Le Mans Université, donc spécialiste du Moyen-Âge. Vous venez de sortir la première biographie de Bérengère de Navarre, votre ouvrage, une BD, une expo. Il y a un peu une sorte de Bérengère mania en ce moment ?
Oui, c'est exactement ça. Il y a un regain d'intérêt pour ce personnage. D'une part, par l'intérêt du conseil départemental aussi pour valoriser le gisant. Il y a eu beaucoup de recherche autour du gisant pour réaliser le transfert en fait, de la salle capitulaire à l'abbaye de l'Époux dans l'église abbatiale. Et puis, il y a un regain d'intérêt aussi de la part de la Navarre qui a rejailli aussi indirectement sur la ville du Mans avec les cérémonies pour le jumelage des deux villes de Tudel et du Mans cette année.
Effectivement, il y a un jumelage. D'ailleurs, on n'était pas sûr de son lieu de naissance. Arrêtez-moi si j'ai une bêtise. Quand on va sur Wikipédia, on va taper le nom des autres têtes couronnées. Alors, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste, on a plus ou moins des dates de naissance, des lieux. Bérengère de Navarre, c'est déjà beaucoup plus mystérieux. Pourquoi, Vincent Coriol ?
Parce que des personnages comme Philippe Auguste ou Richard Cœur de Lion, comme vous les avez cités, sont des très grands personnages. En fait, ce sont des exceptions. Pour eux, on a davantage de documentation que pour les autres.
Ce n'est pas la norme ?
Non, ce n'est pas la norme. Bérengère est davantage dans la norme. On ne faisait pas forcément attention aux dates de naissance à cette époque-là et surtout, on ne les enregistrait pas comme on les enregistre aujourd'hui. Donc le fait qu'on n'ait pas la date de naissance exacte de Bérengère n'est pas une surprise et ce n'est pas une exception. C'est un phénomène relativement courant. Cela dit, on arrive à dater avec une fourchette chronologique relativement précise la date de naissance de Bérengère autour des années 1160.
Comment on arrive à ces conclusions, Giscard Bory ?
Alors pour Bérengère, on a déplacé cette date estimée, on l'a avancée dans le temps parce que on a suivi un indice, en fait, le prénom qui n'était pas du tout dans la tradition navarraise et qui appartenait plutôt à la tradition d'un royaume traditionnellement ennemi de la Navarre qui était l'Aragon. Et donc c'était une sorte d'hommage à ce royaume voisin et souvent ennemi d'Aragon qui ne pouvait être intervenu que pendant une période de paix avec le royaume voisin. Et cette période de paix, il n'y en a pas énormément. On en a une autour de 1160 et c'est comme cela qu'on place la date de naissance de Bérengère.
Et comment on arrive à la conclusion de la ville de Tudela qui n'était pas la capitale du royaume de Navarre, qui était quand même un royaume beaucoup plus gros que la Navarre actuelle. C'était pas aussi gros que l'Aragon ou la Castille, mais c'était quand même un petit royaume, un petit pays à lui tout seul. Vincent Coriol.
Oui, la Navarre n'est pas du tout une toute petite province. C'est un vrai royaume déjà, avec un titre royal. Et puis c'est un royaume qui a une ouverture sur l'Atlantique, avec le Pays Basque. Une ouverture sur les Pyrénées, c'est un royaume transpyrénéen. Et puis une ouverture évidemment méridionale avec la vallée de l'Èbre. C'est au niveau des transports ou des communications, c'est un royaume pivot. C'est un royaume qui est important, qui compte. Et c'est aussi une puissance militaire. Hein. C'est aussi une des motivations du mariage plus tard de Bérengère avec Richard. Quant au lieu de naissance, en fait, on n'a aucune information exacte sur le lieu de naissance. Il y a un palais royal à Tudel, mais il y a d'autres sites de résidence de la famille royale navarraise à cette époque-là. Les Tudelans revendiquent très fortement et très véhementement la naissance de Bérengère, mais il faut reconnaître que les documents pouvant l'attester n'existent pas.
Donc en gros, je reviens à ma question de base. Si on sait par exemple pour des personnalités plus connues comme Richard Cœur de Lion, c'est peut-être parce qu'à l'époque il y a beaucoup d'écrits qui parlaient d'eux, donc on arrive à savoir à peu près quand ils sont nés, c'est ça ? Alors que pour une personnalité, en plus Bérengère de Navarre n'est pas héritière, n'est pas fille aînée des rois de Navarre, Giscard Bory.
Non, c'est ça. Elle a un grand frère hein, qui est l'héritier de la couronne. Donc on a une idée un peu plus précise de la date de naissance de l'aîné de la famille, souvent dans les fratries. Et on prête beaucoup moins attention dans les chroniques aux dates de naissance des cadets et des femmes parce qu'effectivement, ça a beaucoup moins de transcendance pour l'histoire du royaume.
Vincent Coriol et Giscard Bory, lequel de vous deux peut nous présenter en quelques mots, parce qu'on sait peu de choses en fait, concrètement sur elle avant son mariage, qui est Bérengère de Navarre, on n'a pas une idée de ce à quoi elle ressemblait, à part peut-être que gisant.
On a effectivement très peu d'informations sur son physique, par exemple, à quoi elle ressemble. On n'a pas de portrait, on n'a pas l'équivalent. Mais il faut noter tout de suite que c'est le cas pour la quasi-totalité des personnages de son époque. Hein. Le fait d'avoir des images représentatives et ressemblantes viendra bien, beaucoup plus tard.
D'ailleurs, quand aujourd'hui on voit dans les livres d'histoire des images des rois de France, notamment sacrés, sur trois siècles, ils ont tous la même tenue, la même tête, la même coupe de cheveux.
Oui, parce qu'on représente d'abord un archétype, le roi de France. Représenter l'individualité, ça viendra beaucoup plus tard. Le premier vrai portrait d'un roi de France, il date de Jean de le Bon et il date du milieu du XIVe siècle.
Jean de le Bon qui est né d'ailleurs ici au Guédemogny.
Exactement, on a son acte de baptême, on sait qu'il est né au Guédemogny, il a été baptisé à la cathédrale.
En France, on va dire par exemple tous les instituteurs de France et de Navarre. Vous êtes historien, donc vous savez évidemment que parce que la France et le Navarre ont eu la même tête couronnée pendant des siècles. Ça commence avec, il me semble, Philippe le Hardi, ou avec Philippe le Bel, je crois. Ça commence sous les Capétiens, les rois de France et de Navarre. Est-ce que ça vient du fait que, tout simplement, les rois de France ont hérité du royaume de Navarre qui était aux frères de Bérengère? Est-ce que c'est ça, en fait, c'est une histoire d'héritage?
Non, ça remonte pas à l'époque de Bérengère.
C'est un siècle après.
Voilà, c'est beaucoup plus tardif. Donc c'est pas un héritage direct. C'est surtout un héritage qui est lié au XVIe siècle et à Henri IV, hein, qui ramène un peu la Navarre dans le.
Mais je crois que les derniers Capétiens étaient rois de France et Navarre parce que Charles le Mauvais, roi de Navarre, descend de.
Oui, alors non, les rois de France n'étaient pas rois de Navarre.
C'est Henri IV le premier.
Voilà, exactement. En revanche, Charles le Mauvais, effectivement, est une branche collatérale du royaume de France et il a épousé une héritière navarraise. Mais les deux lignées sont restées séparées jusqu'à Henri IV qui vient réunir en fait les deux couronnes.
Donc cette Bérengère, elle arrive au Mans.
Oui, alors c'est une opération assez complexe et inhabituelle. C'est un territoire dont le roi de France vient de récupérer le gouvernement direct, puisque avant il était certes le souverain, mais le comté du Maine était gouverné par donc les titulaires du comté du Maine qui étaient les Plantagenêts. Donc en 1203-1204, il récupère les droits sur le comté du Maine et il cède les droits alors uniquement sur la ville du Mans et sa banlieue, ce qui s'appelait la Quinte à l'époque, à Bérengère pour des raisons qui sont multiples, pour lui donner un dédommagement de sa fonction de reine douairière que la couronne d'Angleterre aurait dû lui verser une rente en fait pour.
C'est son beau-frère Jean Santerre qui n'a pas eu une très bonne réputation auprès de ses contemporains et auprès des historiens qui l'a un petit peu spogué, on dira. Vincent Coriol ?
Oui, pour résumer, on peut dire ça. En fait, effectivement, Bérengère aurait dû, à la mort de son mari, toucher des revenus en tant que reine douairière. Il se trouve qu'il y a déjà une reine douairière, sa belle-mère, Aliénor d'Aquitaine. Et puis Jean Santerre, le successeur de Richard, lui aussi va se marier et donc doit dégager aussi des revenus pour sa femme. Et puis de toute façon, il est en guerre, il n'a pas les moyens d'entretenir plusieurs reines douairières. D'autant que Bérengère, n'ayant pas eu d'enfant, ne représente plus rien pour la dynastie Plantagenet. Elle n'a pas, j'allais dire, plus aucun intérêt et plus aucune fonction dans la dynastie. Donc, elle se retrouve effectivement un peu sans revenu. Et c'est en choisissant de traiter avec le roi Philippe Auguste qu'elle va récupérer un statut et des revenus. Il y a ici un vrai choix de la part de Bérengère qui choisit la rupture avec la famille Plantagenet pour rallier en quelque sorte l'obédience capétienne.
On sait qu'elle est fondatrice de l'abbaye de Lépau, l'abbaye royale, qu'elle y a été enterrée, qu'elle n'y a pas vécu parce que c'était une abbaye masculine. Mais l'abbaye existait déjà avant, elle a tout créé de A jusqu'à Z avec les frères cisterciens ou pas ? Giscard Boré ?
Oui, c'est une fondation, c'est sa fondation propre dans laquelle elle a investi les revenus qu'elle a fini par récupérer de la cour d'Angleterre dans les années 1220, qu'elle a commencé donc à faire construire à partir sans doute du milieu des années 1220 et pour laquelle elle a sollicité l'ordre cistercien pour lui envoyer une communauté masculine effectivement de moines pour habiter les lieux et qu'elle avait surtout prévu pour être son lieu d'enterrement.
On ne sait toujours pas exactement où est son. On sait où est son gisant, mais son corps, ça reste un mystère.
On ne sait pas exactement où est-ce qu'elle a été enterrée, mais selon toute vraisemblance, elle est la fondatrice, elle est la patronne de cette importante institution. Elle a très vraisemblablement été enterrée dans l'abbatiale. Donc tous les ossements qui ont pu être retrouvés par la suite, notamment dans la salle capitulaire, ne peuvent pas appartenir et relever de Bérengère. Ceux qui avaient été retrouvés dans les années 1960 ont fait l'objet de datation. On sait que ce sont des ossements qui datent plutôt du milieu du XIVe siècle, donc aucun rapport avec Bérengère. Ceci dit, avec le gisant, il y a en fait un petit coffret qui contient des ossements, qui a toujours accompagné ce gisant depuis au moins la fin du XVIIe siècle. Et ces ossements font l'objet actuellement d'analyses précises et de datations. On n'a pas encore tous les résultats pour savoir d'où ils proviennent. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ce ne sont pas seulement les ossements de Bérengère, puisque déjà il n'y a pas un squelette complet, et qu'en plus ce squelette comporterait, enfin les ossements comportent trois morceaux de fémur différents. Donc évidemment, trois fémurs, c'est un de trop pour un seul personnage.
Merci messieurs.
Merci à vous.
Merci à vous.